mais tout de suite Gilles Caraman.
Le violon. Et le rossignol. Bonjour, le menu du chef aujourd'hui, c'est un deuxième service, si vous voulez. C'est la suite du menu de Léo Ferré. Léo Ferré, homme de variété, comme il dit avec un certain sourire. Léo Ferré, chef d'orchestre, celui qui a rencontré Ravel et qui cherche derrière ceux qui la représentent, la musique.
La musique, la musique.
Le public, si vous donnez un concert public et vous donnez par exemple Ravel, est-ce qu'il vient pour Ferré? Est-ce qu'il vient pour Ravel?
Ah là, je m'excuse, alors je dois vous dire une chose, c'est que moi j'ai donné le même concert avec Beethoven, Ravel, notamment quoi, au Palais des Congrès en 1975, pendant un mois, c'est-à-dire 24 représentations, avec le pianiste Dagachatz, que je signale que c'est un grand pianiste et qu'il est beaucoup plus difficile aux instrumentistes comme ça de se faire une place dans ce monde que... encore que pour nous c'est difficile, mais alors, je dis pour nous, chanteurs de variété, bon, c'est encore plus difficile, c'est un très grand. Il habite ici à Clarence, c'est significatif, c'est l'endroit où Stravinsky a écrit le Sacre, qu'il avait terminé à Monte Carlo, n'est-ce pas? Et alors, j'ai rempli, j'étais obligé, parce que, quand j'ai un producteur qui a cru, j'ai pas tellement compris, c'était extraordinaire. Qui payait l'orchestre, Padelou, et les chœurs. Tous les chœurs, c'est-à-dire 75 musiciens de chez Padelou, et puis il y avait entre 40 et 60 choristes. Je dis entre 40 et 60, parce que c'est des choristes un peu amateurs, et qui venaient, enfin, il y en a toujours au moins 40. Tous les soirs, il y avait 3000, la salle qu'on donnait 3700 personnes, si je n'avais pas fait 3000 au moins de... En moyenne, par jour, le type, il aurait perdu de l'argent, parce qu'il n'en a pas gagné. On a fait 164 millions de recettes brutes, tu sais, j'ai la mémoire pour ça. Hein. Et il n'a pas perdu d'argent tous les soirs, ça lui coûtait 5 600 000 francs, je parle en ancien franc français, avant de lever le rideau. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait dans la salle des gens qui étaient venus. Et c'était le mystère un peu, parce que je me suis dit, si les gens qui m'aiment bien comme ça, s'ils se disent, oh ben, c'est bien, Ferré, mais enfin, bon, la musique, oh là là, on ira le voir quand il sera tout seul à l'Olympia, vous comprenez, par exemple. Il y avait ce risque-là. Et bien non, ils sont venus, et malhonnêtement, mais d'une façon ô combien romantique, je leur ai fait passer de la musique. Oui. Et je dois vous dire que, il y avait 90% de jeunes qui ne connaissaient pas le concerto pour la main gauche. C'est scandaleux. Pourquoi? Parce qu'on leur a interdit. Oui. Et oui. Vous savez qu'on interdit les choses même sans qu'il y ait une loi pour interdire. Hein. Et ils venaient, tout ça. C'était extraordinaire. Dans la troisième cadence, je m'effaçais un peu. Dans la dernière cadence, je veux dire. Et je regardais cette salle qui était suspendue à la main de Dagachatz. Et des gens, singulièrement des femmes, lui demandaient après. Alors, ah, c'est vous, Ravel? Ah, c'est extraordinaire. Et, alors, ah, vous êtes manchot? C'est extraordinaire, non? Non?
Ah, c'est absolument fabuleux.
Ouais. Ouais. Il venait me dire ça, quoi. Et vous savez, alors, j'ai des chiffres que je peux vous donner. J'ai enregistré ça. Je suis allé avec l'orchestre. Un jour, j'avais reçu un coup de téléphone en Italie d'un ange gardien, je suppose, qui me dit, on met l'orchestre de Liège à ta disposition. C'est extraordinaire, ça. Vous êtes en train de croire au Père Noël, vous, et vous êtes là, vous dites, oh, je vais diriger, je vais ça. Et vous recevez un coup de téléphone, on met un orchestre de Liège à votre disposition. Et l'orchestre de Liège est un orchestre extraordinaire. Alors vous pensez que, bon, ça s'est bien trouvé. Et le chef d'orchestre, qui était titulaire à ce moment-là de cet orchestre, s'appelait Paul Strauss, c'est-à-dire Strauss l'autre, n'est-ce pas? Et qui avait écrit une lettre en disant, la chanson du mal-aimé, il faut absolument les chœurs, oui, oui, il faut faire tout, etc. Je me suis dit, tiens, il est gentil ce type, quoi. Et, hein, pour une fois. C'est rare que le type vous ouvre la porte. Et alors, je suis allé là-bas, tout ça, j'ai vu la répétition. Ça. C'était juste après la Suisse où j'avais fait ça avec l'orchestre des jeunes américains, l'Institut des hautes études musicales. Hein. Bon, et alors, là, je savais que je pouvais le faire. Je suis arrivé là-bas, j'ai travaillé, la répétition, ça marchait très bien. Et le deuxième jour, le chef d'orchestre n'était pas là, le troisième jour, il arrive. Il me voit. Il me dit bonjour, il me dit j'étais pas là. Bonjour. Alors, j'ai dit, monsieur, je vous remercie. C'est très, très accueillant et très gentil, mais ce qui est rare d'ailleurs. À partir du moment où ce type m'a vu diriger une répétition, il ne m'a plus regardé. Vous comprenez? Il ne m'a plus regardé, parce que moi, je suis malin, et je regarde les gens comme ça, je dis tiens, ce type. Il ne m'a plus regardé. Et alors après, j'ai dirigé des choses en moi de musique, pas, je n'avais pas le droit de chanter dans la maison de disques, parce que la maison de disques avait un droit d'option. Et moi, je ne pouvais rien faire, bon, bref, ce serait trop long à expliquer. Mais enfin, imaginez bien que je ne pouvais diriger comme musique. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Il fallait qu'il y ait de la musique à moi dans un disque où je mettrais Ravel. Parce que Ravel, c'était pas moi, c'était Ravel. Hein? Bon, je voulais faire ça pour Ravel. Bon, il fallait que je mette de la musique à moi. Bon, pour vous dire. Alors, je voulais faire le disque et le faire appeler Ferré Muet joue Ravel Manchot. Ils n'ont pas voulu. Ils se disent, qu'est-ce que c'est, Manchot, etc. Alors ils ont mis Ferré Muet, joue Ravel, et puis ce truc avec l'orchestre de Liège, etc. Bon. Alors je voulais faire le concert pour la main gauche, que j'avais fait avec eux. Il n'y a aucun problème avec une musicienne, bien sûr. Le comité de la musique, dirigé par ce chef d'orchestre, a interdit que. Oui, oui. Interdit que je dirige le. Il ne fallait pas que je touche Ravel, vous voyez. Hein? Qui crève ce mec. D'ailleurs, je crois que c'est arrivé. Hein? Alors, il ne fallait pas que je dirige Ravel. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai fait à Milan. Et alors, je continue parce que c'est important. À la fin, quand j'ai commencé en novembre 1975 avec l'orchestre Padoue. Et alors, il y avait le disque chez CBS en vente, le disque que j'avais fait avec l'orchestre de Milan. Le type de la section classique vient me dire, vous savez, M. Ferré, 10 jours après, le 25 novembre, il vient me dire, c'est très bien parce que on a vendu 7500 exemplaires de disques en France, du disque que vous avez fait de concert pour la main gauche. Ah, je dis, ben, ça me fait plaisir. Et moi, je me suis dit, tiens, nous, quand on vend les disques, peut-être au début, on vend plus vite. 7500, par exemple, c'était extraordinaire. Et il me dit, d'autant plus que nous sommes CBS et nous distribuons en France le CBS américain et nous distribuons le disque qui a été enregistré avec l'Orchestre Philharmonique de New York et le pianiste Entremont avec Boulez. Et en 3 ans, ils en ont vendu 2500. Hein? Jusqu'à maintenant, j'ai vu Dag Hachat hier soir. C'est pas loin, vous voyez, et on doit en être à 23 000. Hein. C'est pas mal, vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a le public que j'ai amené à ça et qui achète ça en ayant confiance en moi. Voilà, ben ça vaut le coup.
Ferré, vous avez parlé peut-être d'une chose qui me paraît importante, mais que vous avez comme ça juste évoqué, c'est l'interdit des choses, hein, qu'il y ait vraiment un interdit. Or, il y a des fossés ou des barrières, vous l'appelez comme vous voulez, entre toutes sortes de musiques, et peut-être qu'il y a un plus grand mur entre la musique classique et les autres formes musicales. Vous l'expliquez comment?
D'abord, je crois qu'il y a, vous savez, il ne doit pas y avoir de mur dans les diverses formes musicales. Je pense que les musiques dites un peu légères, c'est plus difficile. La musique, c'est quelque chose, c'est triste, quoi. L'art, c'est triste, sinon c'est des exercices, vous voyez. Je ne peux pas vous dire exactement les choses ont fait. Il doit pas y avoir de barrière définitive, je crois. Ouais. L'opéra de Katsu, c'est pas mal. Puis, Offenbach, c'était pas mal non plus aussi, vous voyez.
Pourtant, vous avez dit que vous avez amené un public à la musique de Ravel et qui n'existait pas. Donc, ces gens, soit ne la connaissaient pas, soit ne la comprenaient pas. Enfin.
Non, et puis, alors, ils connaissaient moi. Vous savez, on ne peut pas dire aux gens. Les gens ont un concerto, ils disent ah, c'est difficile, il faut avoir appris. Mais c'est pas vrai. Il faut mettre les gens. Moi, j'ai dit que dans les jukebox, dans les Verum de Mozart, eh bien, les gens finiraient par l'écouter.
Léo Ferré, il existe des musicologues. On peut savoir ce que vous en pensez?
Ça, c'est des gens horribles, vous savez. Vincent Dindy a droit d'être critique en ce qui concerne la musique. Un musicien, un type qui connaît bien la musique et qui en parle d'une façon non pas particulièrement critique, mais avec amour, ou qui n'en parle pas, voyez-vous. Et les musicologues, ce sont des musiciens qui doivent diriger Beethoven en mettant un disque sur le plateau et en se regardant dans la glace. Vous voyez, c'est ça, d'abord. Maintenant, il y a les musicologues, les types qui sont les chercheurs, les historiens, c'est autre chose. Hein. Moi, je vous parle des critiques musicaux. Hein. Les musicologues, ben là, c'est le musicologue, c'est vraiment l'historien. Ça, c'est intéressant. Et puis, il faut y aller, vous comprenez? C'est le mot qui ne me plaît pas, musicologue. Moi, je préférais qu'on dise historien de la musique, quoi, si on veut, ou bien historien, quoi, je sais pas. Et ce sont des gens qui finissent plus ou moins par être critiques, n'est-ce pas? Critiques de la musique. Oh, je connais un, moi, qui était critique, qui critique à François, ce journal quotidien du soir, hein, qui s'appelle Motte, je sais pas, Motte. Et alors, qui... Le jour où il était venu, la première de ça, vraiment la veille, je crois, à mon concert, au Palais des Congrès, vous diriez Coriolan de Beethoven. Après, je vous dirai, faites-moi penser à vous dire pourquoi je faisais Coriolan. Hein. Et alors, il a titré l'article Ferré assassiné par Beethoven, quoi. C'est pas mal, non? Alors, à quoi j'ai dit, mais moi, je suis bien fier. Si moi, je suis assassiné par Beethoven, je suis bien content. Et il a dit. Je dirigeais la chanson du mal-aimé en la chantant. Or, la chanson du mal-aimé est une œuvre lyrique. Hein? Donc, ça change de tempo tout le temps. Il est obligé que les musiciens regardent le chef d'orchestre, même si c'est un mauvais chef d'orchestre, hein? Qui regarde le tempo qu'il donne, même si c'est un mauvais tempo, et qu'il soit mauvais en même temps que le chef d'orchestre. Et alors, il a dit que les musiciens de Padoue se cachaient pour ne pas me voir. Vous vous rendez compte, quel sale type. Mais je dois dire qu'aucun musicien de Padoue qui est venu me voir souvent le soir, après il me dit, vous savez, on travaille 3 heures avec vous, il n'y a qu'avec vous qu'on peut le faire, parce que avec les autres, vous, ça marche, on est content. Et il n'y en a aucun qui est allé faire rectifier, mais ça, c'est extraordinaire. Hein. Les musiciens d'orchestre ne sont pas courageux, vous savez. Hein.
Je crois qu'il faudrait qu'on parle tout de suite du pourquoi du Coriolan.
Ah oui, écoutez, alors moi je vous ai dit tout à l'heure que mon oncle était secrétaire général du théâtre de Monte Carlo, donc c'était en 32, mais un peu avant, j'étais plus jeune, j'étais petit garçon, quoi. Alors quand j'étais jeune du collège, j'avais peut-être 10 ans, j'avais été à une répétition, je m'intéressais à ça, il faut croire que ça me travaillait, hein. Et il m'a mis dans la loge du pompier sur la scène, et on me disait la loge des pompiers avec des grilles derrière, parce que les pompiers qui venaient là pour voir un peu ce qui se passait. Et il y avait Toscanini qui avait une répétition. Je crois qu'il y avait la mère de Bussy, puis quelque chose, quoi. Moi, je ne connaissais pas du tout ces choses-là, moi, du tout. Je ne savais pas qui était de Bussy, je ne savais rien du tout. Et le Toscanini, on me disait qu'il ne voyait pas, mais il m'a vu dans la petite cabane. Il est venu me chercher, et il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Un italien, hein. Et je dis, je suis venu écouter votre musique, monsieur. Il me dit, non, è la mia musica, vieni, c'est pas ma musique, viens. Il m'a pris par la main, il m'a assis à côté de lui, il me dit, maintenant tu vas écouter Coriolano de Beethoven.
Finalement, finalement, on n'a pas parlé des musiques qu'aimait Léo Ferré. Bon, on a parlé de Ravel, on a parlé de Beethoven, mais où commence et où s'arrête? Est-ce que le baroque, le romantique, le romantisme, le post-romantique, enfin, bref, il y a beaucoup de choses et de genres qui sont définis peut-être un peu aussi par les musicologues, mais où commence et où s'arrête les goûts de Ferré, si ça s'arrête quelque part?
Oui, alors là, je dois dire que je dois aimer la musique que vous aimez. Vous comprenez que les gens qui aiment la musique aiment, sûrement. Alors, il faut que je choisisse pour vous dire des choses. J'aime les chœurs. J'ai trouvé l'autre jour... moi, j'ai fait un texte un jour, tout à fait par hasard, une circonstance qui m'a amené à écrire un texte que j'appelle Le Chien. Une chose un peu violente, comme ça. Et je la disais d'une façon telle... d'autant plus violente qu'il y avait derrière un groupe de musiciens pop et avec ces rythmes endiablés comme ça, et ça me... je disais le texte comme si j'étais dans un meeting, n'est-ce pas? Et alors, j'ai voulu remettre ce texte et l'année dernière, il y a à peu près un an, vous voyez ça, je recherchais une autre musique, je voulais changer, et j'avais trouvé une musique d'un percussionniste brésilien que j'avais enregistré dans une grotte que j'ai à la mer, dans une maison, et je dis ça parce que c'est un endroit pour un studio naturel d'enregistrement extraordinaire. Et alors c'était encore, c'est un type qui avait beaucoup de talent, mais c'était encore ces rythmes du jazz, n'est-ce pas, même des rythmes fantastiques de sud-américains, mais il fallait que j'en sorte. Et sur, près, pas loin de mon ton de disque, il y avait un disque qu'un cousin germain à moi m'avait donné quelque temps avant, parce que c'est un type qui aime la prise de son, et qui est monégasque comme moi, qui avait enregistré la maîtrise de la cathédrale de Monaco dans Ovos Omnes de David Toria, qui était musicien espagnol du XVIe siècle, contemporain de Palestrina. Et alors, je l'avais chanté à l'église, moi, quand j'étais petit, on chante ça le vendredi saint. J'ai mis ça sur le ton de disque et j'ai dit le chien en même temps. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça correspond vraiment au temps de dire le chien. Il faut que je fasse très attention pour que ça... ça se passe très bien, et ça me fait dire le chien comme si je disais un texte dans une église, voyez-vous. Et ça porte davantage, parce que c'est beaucoup plus simple. Alors ça, j'aime beaucoup ça, de Ovos Omnes de Victoria. Et puis, qu'est-ce que vous voulez, j'aime tout le monde, Beethoven, Dieu sait si tout est à jouer. Même un passage de la Grande Fugue que... je suis en train d'orchestrer pour grand orchestre et chœur, et qu'est-ce que je vais me faire engueuler? Oui, oui, c'est vrai, vous savez. En exemple, le musicien de variété qui orchestre, qui ressemble en plus difficile au final de la 9e, vous savez, l'opus, qu'on appelle l'opus 133 de Beethoven, le grand fugue, grosse fugue. Hein. Et puis, je sais pas moi, tout ce que vous savez. Puis après, moi, je vais surtout Wagner. Oh là là, quelle magie.
La musique ancienne, par exemple.
La musique ancienne se joue un peu avec les descentes d'harmonie. C'est un peu... Ça me touche pas beaucoup.
J'ai l'impression, moi, que... mais c'est plus qu'une impression personnelle, je peux me tromper, que Ferré, il aime bien le défi de l'homme de variété s'attaquant à la musique classique.
Non, pas du tout, non. Non, non. Pas du tout, vous savez, parce que, vous savez, pour moi, il y a peu de très grands musiciens. Quand je dis ça, je veux dire très grands, quoi. Au 19e siècle, vous ne savez pas, les Saint-Nard de la mer, hein. Au 20e, non plus, pas encore. On peut dire Debussy, non, Debussy c'est 20e, hein, bon, même à cheval, bon. Le faune, c'était la fin du siècle, mais c'est quand même le 20e. Debussy, Ravel, Stravinsky, Bartok, Berg, enfin, un peu moins. Enfin, c'est... hein? Et vous en trouvez d'autres, vous,
hein? Non, mais si j'ai...
Prokofiev, un peu, oui, enfin, Prokofiev. Il y a une chose que je vous jamais de lui, tenez, voilà, qu'on entend rarement, c'est cette œuvre qu'avait suscité en Prokofiev... Eisenstein, très honnêtement, il voulait faire un film, il lui a fait faire la musique avant, n'est-ce pas? C'est Alexandre Nevsky, n'est-ce pas? Ça, c'est extraordinaire. C'est russe, extraordinaire. Extraordinaire. Moi, j'ai vu Chaliapin chanter à Monaco. Hein. Chaliapin, c'était un type terrible. Et puis, vous voyez Boris. Il y a Rimsky-Korsakov. Puis Debussy, je vous dis, bon, le faune et la mer, et pas tellement les leaders, mais non, pas tellement les leaders. Mais là, ils avaient cette espèce de... Ah, c'est terrible ça, il y a un truc qui va pas là. Regardez combien ils avaient du talent, ces types.
Schubert, par exemple.
Ah oui, oui. Vous rendez compte, le Winterreich, le voyage d'hiver.
Puis si je vais plus près de notre époque, c'est-à-dire que je parle de musique contemporaine, vous avez prononcé le nom de Boulez tout à l'heure.
Oh, écoutez, alors
Xenakis, la musique sérielle, oui. Contemporaine, vous l'appelez, oui. Je ne sais pas.
Xenakis, c'est un architecte, non?
Oui.
Ah oui. Il était l'autre jour, moi j'étais, je faisais partie du jury du festival d'Avoriaz l'autre jour. Alors, à une émission de télévision, il était il y avait moi d'un côté, il y avait un écrivain, et puis il y avait ce Xenakis, c'est comme ça. Alors, je suscitais, j'essayais de le regarder, vous savez, pour qu'il me voie, pour qu'on se sourie. Jamais. C'est extraordinaire. Jamais. Il n'a pas tourné l'œil. Comme quand j'étais au Palais des Congrès. Il y avait le type en place là-bas, puisque c'est l'endroit où l'orchestre de Paris joue, ce chef d'orchestre qui s'appelle Barenboim. Il était là, alors moi, je sais que sa femme est très malade, et qui était une grande violoncelliste, et puis c'est fini pour elle, elle est d'une maladie abominable. Et je le savais, moi je ne le connaissais pas, et trois ou quatre fois on s'est croisés dans des couloirs, mais les couloirs pas tellement larges. Hein. Alors je le regardais pour qu'il me regarde. S'il m'avait regardé, je l'aurais salué, et je voulais lui demander une nouvelle à sa femme pour lui faire plaisir. Il ne m'a jamais regardé, ce mec, vous rendez compte? Hein? C'est extraordinaire, hein? Qu'est-ce que c'est les gens, des fois?
Vous regardez l'homme avant le musicien?
Oui, mais vous savez, moi, les musiciens, je n'en connais pas beaucoup, les musiciens vivants, parce que je connais des grands morts, comme vous, hein. Et quand je regarde un musicien, c'est toujours vraiment un ouvrier, la musique, un instrumentiste, hein. Et c'est ça l'important, vous savez, le type qui joue, qui se donne à son truc, et l'important, c'est de donner... Le chef d'orchestre, il doit faire partir le fait que ces musiciens travaillent comme n'importe qui travaille, mais ils ne doivent pas avoir le sentiment qu'ils travaillent pour vivre quand ils jouent de la musique, sinon ça devient tragique pour eux, vous comprenez.
Le contemporain, donc, je ne crois pas que ça plaise beaucoup.
Non, c'est contemporain, je vous ai dit, Berg est un contemporain, non? Qu'est-ce qui a fait mieux que lui, dans tous ces gens? Il y a 10 000 musiciens maintenant, vous comprenez? Faut pas raconter d'histoire. Moi, j'ai pris le... Quand je parle des choses, je veux parler d'une façon honnête. Je parle... Enfin, je parle pas beaucoup. Boulez, ben, c'est un type qui a écrit le marteau 100 mètres, par exemple. Alors, j'ai la partition d'orchestre, j'ai le disque, j'écoute avec le poème de René Charles. Alors j'ai fait l'expérience, j'avais mis le disque et je me suis dit, je vais écrire les paroles que j'entends, chantées par cette femme. J'ai pas rêvé. Alors, ça veut dire ça. Je ne suis pas arrivé à écrire les paroles, parce que je ne les ai pas comprises, d'une chanteuse qui chante en français le texte français de René Char. Alors il y a quelque chose qui ne va pas, là, vous ne croyez pas, non? Ce que je regrette, c'est que ce soit des gens qui sont aidés par le pouvoir, de droite ou de gauche, c'est pareil. Ils sont aidés, et allez savoir pourquoi. Parce que plus c'est difficile, les gens se disent, j'ai l'air d'un con si je dis que c'est pas bien. Vous voyez, vous savez ça, hein? C'est difficile, alors c'est très bien. Hein? Ah là là.
Si demain, Léo Ferré était à la tête de l'orchestre de la Suisse romande, quel serait le programme qu'il composerait?
Moi, je voulais faire le sac du printemps en répétition publiquement. Vous voyez? Voilà. Je connaissais un musicien, un violoniste de cet orchestre. Je l'ai connu ici, d'ailleurs. Et je voudrais bien que vous voulez faire. Comment voulez-vous que moi, j'aille diriger l'orchestre de la Suisse romande? Vous comprenez? C'est quelque chose. C'est impensable, quoi, que vous voulez faire. C'est comme ça. Évidemment, j'aimerais bien.
Et puis, si, par bonheur, Ferré, tout d'un coup, mettait plus de temps, accordait plus de temps uniquement à la musique, est-ce que son activité, disons, du côté de la chanson française, cesserait?
Non, vous savez, moi je voudrais que la musique, mais il y a une chose que je dois dire, que, honnêtement de ma part, quand j'écris de la musique, je mets toujours des paroles pour que les gens s'imaginent que je ne veuille pas écrire de la musique. Vous vous rendez compte, le complexe qu'on m'a foutu, hein? Et alors, je vais écrire que de la musique, il faut que j'écrive de la musique, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me lancer, qu'est-ce que je vais faire? Tant pis, maintenant, je pourrais au moins payer l'enregistrement que je ferai, même si je ne fais qu'un disque pour moi.
Toujours un peu maudit, que ce soit dans la musique ou que ce soit dans quelque forme musique.
Mais pas par le public, par les intermédiaires. C'est ça qui est grave, vous voyez.
Autour de Ferré, Moussès Zain et Smous Zain, c'était bien sûr notre invité à la tête de l'Orchestre Symphonique de Milan. Un extrait du concerto pour la main gauche de Ravel avec Dagachatz au piano. Toujours le même orchestre, toujours Léo Ferré à sa tête. Le troisième mouvement de la symphonie numéro 36 de Mozart avec l'orchestre de chambre anglaise sous la direction de Jean-François Paillard. Coriolan, Beethoven, l'Orchestre Symphonique de Milan avec encore Léo Ferré. Le Corsaire de Berlioz avec l'Orchestre Symphonique de Boston sous la direction de Charles Munch. Et je vous propose pour terminer le premier mouvement du concerto numéro 3 pour piano de Beethoven avec au piano Arthur Rubinstein, l'orchestre symphonique de la NBC sous la direction d'Arturo Toscanini.